Bête est lancée, c'est parti.
Allô?
Oui, allô, bonjour.
Bonjour.
C'est Radio Pulse.
Ah oui, ok.
Alors, est-ce que vous êtes prête? Allô?
Je vous écoute.
Ah, oui. Donc avant de commencer l'interview, je vais faire juste un petit débrief pendant 30 secondes. D'abord, pour vous mettre un peu dans le bain, on va parler de l'association, de ce que vous faites, de l'activité de l'association. Ensuite, on va parler de l'affrontement et des combats que vous menez tous les jours.
Oui.
Ensuite, on va dériver sur le sujet le voile contraint.
Non.
Le voile, sur le sujet du voile.
Ah non, là, je ne vais pas répondre sur ça.
Ah.
Moi, j'avais dit que je parle. Non.
Non, d'accord, bon. On va parler de l'association et des combats.
Voilà.
D'accord, pas de soucis.
Exactement. Oui, moi, j'avais dit que je voulais rester vraiment sur le terrain.
D'accord, pas de soucis.
Voilà, je ne veux pas m'étendre. Voilà, pour des raisons. Voilà.
Oui. C'est bon,
je ne veux pas aller plus loin dans mon discours.
D'accord, pas de soucis. On commence ?
Ah oui, si vous voulez.
Alors, bonjour et bienvenue sur Radio Pulse. Nous avons le plaisir d'accueillir au téléphone Marie-Christine Tournier, une des membres bénévoles. L'association Ni Pute Ni Soumise a été fondée en 2003 par Fadela Amara à Paris.
Tout d'abord, quel est le but de l'association et à qui s'adresse-t-elle ?
Alors, l'association est une association de terrain. Elle reçoit plutôt des femmes de banlieue. Nous avons plusieurs projets à l'association. D'abord, il y a la plateforme où vraiment là on accueille les femmes, on les écoute, les femmes victimes de violences. Ce sont des bénévoles qui reçoivent, qui accueillent donc les femmes. Il y a un suivi psychologique, une aide juridique et une aide sociale également. On n'a plus du tout de salariés, ça fait déjà plusieurs années.
Mmh.
Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre?
Alors, comment ça se fait que il n'y a que des bénévoles?
Le populaire, hein?
Comment ça se fait que vous n'avez plus de salariés dans l'association et ça se limite qu'aux bénévoles?
Mais écoutez, ça remonte déjà à plusieurs années. C'est certainement faute de moyens et faute de subventions, hein, de l'État et d'autres, hein. Et c'est pour ça que maintenant, on fonctionne qu'avec des bénévoles, juristes, psychologues, éducatrices, assistantes sociales. On n'a plus les moyens de payer des salariés. C'est une faute de subvention.
D'accord. Et quelle est l'adresse exacte de l'association ?
C'était 80 rue de Paris, à Montreuil.
Et donc, votre association, donc, vous défendez ? Donc, vous défendez les droits de la femme, mais est-ce que les jeunes filles peuvent vous contacter ?
Oui, bien sûr, tout le monde. Oui, tout le monde. Il y a vraiment tous les âges, on contacte tous les âges et on reçoit tout le monde.
Pouvez-vous citer quelques types de violences dont vous vous occupez ?
Il y a les violences physiques, il y a le harcèlement moral, il y a le mariage forcé, il y a l'excision.
Vous en avez souvent des cas du mariage forcé ?
Oui, il y en a encore pas mal. Oui. Il y a aussi beaucoup, ce qui est beaucoup plus difficile à prouver, c'est le harcèlement moral. C'est parole contre parole, mais oui, on a un petit peu de. Oui, le sexisme, le mariage forcé, l'excision.
Et donc. Par quoi les violences, ça commence entre un couple ? Ça commence directement par des coups ou ça commence d'abord par la parole ?
Ça peut être les deux. Ça peut être soit par les coups, soit la parole ou par les deux à la fois. Hein. Ça peut être un ensemble. Hein. coups et paroles.
Et donc, par quels moyens affrontez-vous les situations ?
Par quels moyens ?
Affrontez-vous les situations ?
Ben, comme je l'ai dit, on les reçoit, on les écoute. Des fois, c'est la première fois, elles n'ont jamais parlé, donc c'est très important. C'est la première fois, c'est l'écoute d'abord et l'orientation. Voir ce dont elles ont besoin, un accompagnement juridique, psychologue, ou les aider pour l'hébergement.
Et comment on fait pour procéder à l'aide de l'hébergement ? Ça se passe comment ?
Alors, il y a le 115, l'hébergement d'urgence, également un service de l'État, le SIAO, ça se passe également par Internet. Mais c'est très, très compliqué, l'hébergement. Hein. Ça, c'est le point noir pour elle.
Hein. Et pourquoi le point noir ?
Quand il n'y avait pas d'hébergement, ben, on payait des nuits d'hôtel, voilà, avec des fois avec nos propres moyens financiers, comme on avait un manque de subventions. Mais c'est vrai que l'hébergement, c'est super compliqué, c'est très très compliqué. On a affaire au 115 ou au service de l'État, le SIAO.
Mais nous savons que le 115 s'est limité en place et après avoir payé la chambre d'hôtel à ces femmes, quand elles reviennent chez elles et revivent la situation qu'elles vécurent avant.
Bah, quand c'est vraiment grave, quand elles sont vraiment en danger et qu'elles portent plainte au commissariat, si vraiment elles sont en danger, les policiers ont des structures d'hébergement, des mises à l'abri. Bah, et là, on les remet pas chez elles dans ces cas-là. Mais de toute manière, elles retournent pas chez elles. Quand elles ont décidé de pas retourner chez elles, elles retournent pas chez elles.
Bah, des fois, elles sont menacées par leurs compagnons et puis qui ne leur laissent absolument pas le choix.
Bah, nous, on leur dit que si, il y a des moyens. Hein. Bon, il y a l'hébergement, il y a la mise à l'abri, comme je viens de vous l'expliquer, par la police quand elles sont vraiment en danger. Ou alors le 115, hein, elles sont mises à l'abri dans des chambres d'hôtel ou des centres d'hébergement ou... Mais en principe, quand elles ont décidé, même s'il y a des protections, elles ne retourneront pas chez elles.
D'accord. Et est-ce que vous avez déjà eu des cas, que ce soit des femmes qui vous contactent, mais vraiment parce qu'elles ne peuvent plus rester chez elles, qu'il y a eu des coups, blessures, est-ce que c'est pas mieux de prévenir directement la police ou soit se tourner vers vous ?
Ben non, moi déjà, je leur dis d'aller porter plainte.
Donc ça c'est la première chose à faire. D'accord.
Après, elles viennent vers nous pour un accompagnement, comme je l'ai dit, juridique, social ou psychologique. Mais le premier conseil, c'est d'aller porter plainte. Et même des fois, moi je fais des accompagnements, j'accompagne les femmes au commissariat. Si elles n'osent pas y aller toutes seules, si elles ont peur, moi, je fais des accompagnements physiques aussi.
Et donc, est-ce que vous trouvez ça normal que certaines femmes restent donc, en famille, malgré tout ce qui se passe, parce qu'elles ont des enfants et ils ne veulent absolument pas casser ce lien familial ?
Bah oui, on peut les comprendre. Hein. Elles ont peur des conséquences, elles ont peur pour leur... où vont-elles aller si elles quittent le domicile sans hébergement, avec des enfants, elles ont peur du mari, elles ont peur... moi, je les comprends tout à fait, ces femmes.
Et leur famille les soutient ?
Qui ne veulent pas partir de chez elles.
Et leur famille les soutient ?
Même sous l'emprise de la violence, c'est compliqué. Surtout quand on a des enfants, quand on n'a pas de famille, quand on n'a pas d'aide extérieure. Et puis, elles pensent toujours que ça va s'arranger. Parce que le conjoint ou l'ami dit oh ben ça va s'arranger. Mais ça ne s'arrange jamais, en principe.
Est-ce qu'on peut-on accepter les coups par amour ?
Oui.
Certains le perçoivent comme ça. Certains
oui.
Hommes.
Oui, c'est ce que je viens de vous dire. Parce que le conjoint leur dit ah, mais c'est juste une fois, excuse-moi, pardonne-moi, je recommencerai plus, je le ferai plus, mais il recommencera.
Ouais, parce que c'est rentré dans la routine, dans ses habitudes, et puis la femme, au final, elle garde toujours espoir.
Elle garde toujours espoir, exactement. Et puis, c'est compliqué de partir comme ça, sans hébergement, sans rien. C'est compliqué d'aller porter plainte, c'est compliqué de quitter la maison, c'est compliqué de s'enfuir, c'est très, très compliqué. Et puis, elles ont toujours l'impression, comme vous l'avez dit, que ça va s'arranger. Mais ça s'arrange jamais.
Et qu'est-ce qui peut décourager ces femmes d'aller porter plainte ou d'aller s'adresser à vous pour avoir du soutien?
Est-ce que... Alors, à nous, ça les décourage pas. Aller porter plainte, ça les décourage parfois parce qu'elles sont mal reçues.
Mal reçues, c'est-à-dire?
Mal reçues, on les écoute pas très bien, on les respecte pas, on prend pas en compte vraiment de ce qu'elles, qu'elles disent. Voilà, et des fois, on les culpabilise peut-être aussi. Que nous, dans l'association dans laquelle je suis, il n'y a aucune culpabilité. Moi, je crois toutes les femmes qui me racontent leur histoire et j'essaye de les aider au mieux. Et je pense qu'elles se sentent plus en confiance au sein d'une association qu'à la police. Et tout ça, ça dépend des gens qui les reçoivent. Il y a des policiers qui sont super bien, hein. Je condamne pas tout le monde. Mais des fois, même en les accompagnant, elles sont mieux reçues. Parce qu'il y a quelqu'un d'une association qui est avec elle et j'ai eu déjà cette expérience qu'elles étaient mieux reçues avec quelqu'un d'une association.
Et puis, elles ont plus de courage pour aborder les faits, non?
Plus de courage aussi, oui. Et elles sont mieux écoutées, mieux entendues.
D'accord. Et est-ce que la procédure juridique du divorce, ça peut les décourager aussi parce qu'elles disent que c'est long? Est-ce que ça en vaut la peine?
C'est sûr que ça peut les
parce
décourager,
que tout ça,
mais on les prévient, on leur dit c'est long. Oui, c'est sûr que ça peut les décourager, mais on les prévient. Mais quand vraiment c'est insupportable et qu'elles souhaitent aller jusqu'au bout, et justement les associations c'est là pour les soutenir dans leur démarche, même si c'est très long, elles peuvent revenir, en parler, et les associations c'est fait pour ça aussi, pour les soutenir à long terme, sur un long terme.
D'accord. Et concernant les enfants, parce que là, on parle des femmes, mais les enfants qui subissent tout ça, qui sont exposés à toutes ces violences, qu'est-ce qu'on en fait? Ils ont besoin du soutien aussi, du soutien psychologique notamment?
Alors, l'association Ni Pute Ni Soumise accompagne les femmes, mais pas les enfants. Mais bien sûr, les enfants, on va pas les laisser, sans rien. On donne des adresses, on donne aux mamans des adresses... des adresses spécialisées pour les enfants.
Et quel type de manipulation peut-il y avoir entre les couples?
Des manipulations?
Oui, par son compagnon.
Psychologique?
Oui.
Bah, c'est des menaces, du harcèlement. Mon point de vue psychologie, oui, c'est des menaces, harcèlement.
J'ai regardé votre site internet et du coup j'y ai vu les vidéos d'un homme qui se fait passer pour une femme pour se mettre justement à la place dans la rue et également sur les réseaux sociaux. Parce qu'il peut y avoir également à travers des réseaux sociaux comme ça des menaces aussi proches que la réalité.
Oui, il y a des femmes, en effet, qui sont victimes des réseaux sociaux, qui reçoivent des menaces ou des photos de leur vie privée ou des histoires sur leur vie privée. Oui, tout à fait. Il y a des victimes, il y a des femmes victimes des réseaux sociaux. Exactement. Qui est leur histoire personnelle qui sont retransmises sur les réseaux sociaux, tout à fait.
Et quand il s'agit des menaces sur les réseaux sociaux, elles devraient se dire que ça ne reste que des menaces sur les réseaux et ça n'ira pas plus loin.
Mais c'est une atteinte à leur vie privée. C'est grave. Donc, moi, je les incite aussi à aller porter plainte et à avoir une procédure juridique. C'est grave, c'est une atteinte à la vie privée.
D'accord. Et tout à l'heure, vous m'avez dit que l'association est confrontée souvent à des femmes de banlieue. Pourquoi ce terme, banlieue?
Bah, écoutez, c'est des femmes que c'est un peu un choix. Enfin, même tout le monde peut venir, hein, mais c'est vrai que nous, NPNS, c'est plutôt un féminisme populaire. Mais on reçoit aussi des gens de Paris, hein, mais c'est un petit peu le c'est un petit peu l'histoire de Ni pute ni soumise.
Et combien de membres bénévoles compte l'association ?
De membres bénévoles compte l'association. Je ne peux pas vous répondre là. Je n'ai pas de chiffres.
C'est pas grave. J'avais une autre question aussi. Les femmes qui nécessitent du soutien dans l'Orne peuvent-elles vous contacter ?
Les femmes qui nécessitent
du soutien dans l'Orne. Est-ce qu'elles peuvent vous contacter ou pas ?
Non, excusez-moi, j'ai pas compris la question. Le téléphone. Qu'est-ce que vous m'avez demandé là ?
Les femmes qui nécessitent du soutien dans l'Orne. Les femmes provenant de qui proviennent de Normandie, est-ce qu'elles peuvent vous contacter ?
Normandie, bien sûr. Bien sûr, moi j'ai des appels de toute la France. J'ai des appels du sud de la France, j'ai des appels de toute la France. Et bien sûr, et même si on ne peut pas se rencontrer physiquement, moi j'accompagne pas au téléphone, hein, je fais un entretien téléphonique.
Et vous faites souvent les déplacements ?
Les déplacements ?
Oui.
Non.
Dans la région,
non. Non, moi je ne fais pas de déplacement, mais par contre, on a beaucoup d'appels des femmes de toute la France, hein. Et je réponds, et comme je viens de dire, hein, je réponds et je renseigne. Et si je ne peux pas renseigner moi-même, j'oriente vers d'autres associations proches de leur lieu, proches de leur domicile.
Et donc vous connaissez toutes les associations implantées en France qui
défendent
le droit de la femme.
Je connais pas encore toutes les associations, non. Mais je fais des recherches sur Internet.
Et il y en a combien à peu près en France ?
D'associations ?
Oui.
Mais je ne peux pas vous répondre.
Non. Vous savez pas. Et comment vous faites pour vous faire connaître ?
Pour nous faire connaître ?
Oui, parce que quand l'association a été créée, il fallait bien divulguer les informations un petit peu partout. Et par quels moyens vous y êtes prise ?
Ben écoutez, je pense que c'était à l'époque de Fadela Amara. Et bah écoutez, là, je coince un petit peu.
Les réseaux sociaux, les médias, la presse, la télé ?
Oui, non, pas la télé, je pense les réseaux sociaux, la presse.
Est-ce que vous avez...
les réseaux sociaux et la presse, oui.
En 2015, environ 150 personnes ont investi vos locaux dans l'espoir d'obtenir un hébergement d'urgence. En 2019, ce chiffre a-t-il diminué ou augmenté ?
Vous pouvez me répéter le nombre qu'on m'avait dit, hein ?
En 2015, environ 150 personnes ont investi dans l'espoir d'obtenir un hébergement d'urgence.
Alors, moi, je vais un peu transformer votre question en disant que nous suivons à peu près... je ne vais pas vous parler au niveau de l'hébergement. Nous suivons à peu près... 80 femmes par mail et par téléphone. Donc j'ai dévié un peu votre question parce que je ne peux pas vous répondre, mais je vous donne un autre chiffre. Voilà, nous suivons à peu près 80 femmes, mais en général, hein, par mail et par téléphone.
Et chaque année, le chiffre, il augmente ou il diminue ?
Ça varie, c'est variable. C'est très variable. Il y a des gens qu'on suit depuis. Il y a des nouveaux appels. Il y a des gens que je suis depuis 5 ans, depuis que je suis à l'association. C'est très variable.
Et
de toute manière, moi, j'ai toujours un accompagnement. Enfin, je suis les. Il y a des victimes que je suis et que je prends des nouvelles après. Si elles veulent me donner des nouvelles, elles me donnent des nouvelles. Mais voilà, il y a un accompagnement. Il y a une suite aussi. Je ne réponds pas simplement aux questions, je les oriente pas, je prends des nouvelles par la suite. Il y a des femmes que je suis depuis 5 ans, depuis que je suis à l'association.
Et est-ce que vous avez eu déjà, ou vous êtes en contact encore avec des femmes qui ont vécu ces situations, qui grâce à votre aide ont réussi à s'en sortir ?
Bien sûr, heureusement. Heureusement, oui, heureusement, bien sûr. Même si elles ne sont pas complètement sorties, mais disons, elles sont sur des rails, elles sont hébergées, elles sont en contact avec des avocats. Bon, comme c'est très très long, toutes ces procédures, mais on les a bien aiguillées et bien orientées. Et pour elles, c'est déjà beaucoup.
Est-ce que vous avez déjà organisé des manifestations ?
Des manifestations plutôt en interne.
En interne.
Quand nous avions des locaux à Montreuil, comme nous n'avions pas de salariés, on avait demandé qui sont payés par l'État, là, des jeunes qui sont payés par l'État.
Les services civiques.
Les services civiques, oui, excusez-moi. C'est des services civiques. On avait pas mal de services civiques et donc ces jeunes organisaient des débats au sein de nos locaux.
Des débats sur
la mixité, sur l'égalité entre mixité entre femmes et hommes. On avait des sujets sur l'excision, sur le mariage forcé. Elles préparaient des thèmes et tout le monde était invité. Mais c'était au sein de notre association, ces débats. Ces débats.
Ça n'a jamais été fait à l'extérieur?
Non.
Et
Par contre, on a une antenne à Lille qui fait beaucoup de... C'est uniquement également des bénévoles, des étudiantes et bénévoles qui font beaucoup de manifestations, de ventes de t-shirts. Enfin, je sais qu'elles font beaucoup de manifestations plus tournées vers l'extérieur.
Et donc, pour les ventes de t-shirts, vous avez un site internet ou pas ?
Oui, on a un site internet.
Pour les ventes ?
Ah, pour les ventes, non.
Non, vous n'avez pas.
Non, non. Non, non, mais elles organisent des manifestations. Oui, je ne sais pas exactement parce que je ne suis pas à Lille, mais je sais qu'il y a beaucoup de manifestations de leur part pour faire connaître l'association. Mais en direct, hein, pas sur...
Qu'est-ce que vous en pensez du fait qu'en France, dans les départements, ou notamment à Paris, il y a une inégalité entre les hommes et les femmes? Comment vous justifiez cela?
Écoutez, moi je trouve ça un peu révoltant. C'est bien pour ça que je me suis engagée à Ni Pute Ni Soumise. C'est pour la mixité, l'égalité, égalité, laïcité et mixité qui sont pour moi des principes essentiels pour assurer le vivre ensemble dans notre société.
Et là, nous parlons des couples donc hétérosexuels, mais est-ce qu'on peut parler des couples féminins qui sont homosexuels ? Est-ce qu'il y a des cas comme ça ?
Si on avait des appels, si on avait des contacts, on répondrait à leurs problèmes, mais jusqu'à présent, moi, ça s'est pas passé. Enfin, j'ai pas eu d'appel concernant ces couples.
Bon, c'est que les hommes, c'est un problème.
En 2017, j'ai lu qu'il y avait un projet en partenariat avec le SAMU social de Paris.
Est-ce que 2017.
Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet-là ?
Parce qu'au début, vous avez dit que vous avez pas mal de projets, donc dont celui-là.
Je ne peux pas vous parler de ce projet parce que... Non. Non. J'avoue, je ne peux pas répondre à cette question.
Et est-ce que vous en avez d'autres à part celui-là ? Desquels vous pouvez nous en parler ?
Des partenariats ?
Bah oui, aussi.
Des partenariats... On avait un partenariat, enfin je ne sais pas si on peut parler de partenariat avec L'Oréal. qui proposait du bien-être aux femmes pour un peu sortir de leur quotidien et pour un petit peu refaire leur image. Ils proposaient des ateliers d'esthétique.
Dans vos locaux ?
Dans nos locaux ou dans leurs locaux.
Donc c'est toujours basé sur Paris ?
C'est toujours passé sur Paris, oui, ou la région parisienne. Mais c'est vrai peut-être qu'il nous manque un peu de partenariat, tout à fait.
Et est-ce que vous êtes soutenu par des associations ? Ou par d'autres entreprises ?
Ben, on aimerait bien.
Mais ça, ce n'est pas le cas.
On n'est pas soutenu ni par des entreprises, ni par des associations. Hein. Mais on aimerait bien.
Est-ce que vous savez pourquoi ?
Non. Non, mais là, ça, je pense que je ne vais plus répondre parce que ça va au-delà de mes compétences.
Et ça fait combien de temps que vous êtes membre de l'association ?
5 ans.
5 ans ?
Mmh.
Et vous comptez y rester ? Est-ce que vous arrivez à gérer votre vie ? Est-ce que c'est pas dur justement de voir toutes ces situations et réussir à gérer si vous avez un métier à côté, votre vie familiale et puis parce que je pense que
oui, j'arrive à gérer parce que je suis éducatrice spécialisée, donc je suis dans le social depuis très longtemps. Donc je pense que ma profession m'aide à mettre la distance entre toutes ces deux violences, tous ces problèmes et ma vie personnelle. Oui, j'arrive à gérer, absolument. Oui, oui.
Et j'avais une petite question aussi, si vous arriverez à répondre. Vous savez, les femmes qui ont subi des violences physiques ou verbales, justement, est-ce qu'elles n'ont pas de mal après à retrouver ou à se remettre dans la vie, à retrouver l'amour, quoi ? Est-ce qu'elles n'ont pas une peur ?
Ce sont des femmes très blessées, ça c'est sûr, après qui ont peut-être un manque de confiance en soi. Mais si elles ont un suivi psychologique, il y a des services spécialisés pour accompagner ces femmes et elles peuvent retrouver une vie normale. Mais je pense qu'il y a un grand travail psychologique auprès de ces femmes. Mais si elles sont bien accompagnées, oui, pourquoi pas ? On peut leur laisser une chance. Elles sont pas condamnées à vie.
Ah bah oui, bah justement, est-ce que c'est pas mieux de se remettre dans le bain justement après cette situation et retrouver une vie normale ?
C'est mieux que de rester toute seule après. Normale, oui, bien sûr, mais ça demande des années, hein. Parce que quand on a subi des violences physiques ou morales, on est extrêmement blessé, cassé, humilié. Et je pense qu'il faut des années pour se reconstruire. Mais c'est possible. Hein. C'est possible. Mais il faut vraiment un accompagnement psychologique.
Et après, vous êtes contacté ou avoir porté plainte. Donc la procédure est passée. Donc le divorce est arrivé. Est-ce que les femmes généralement elles obtiennent la garde des enfants ou c'est plus leur conjoint ? Ça se passe comment ?
Ah ben ça dépend de la situation. Hein. On peut pas être si systématique que ça. Hein.
Parce que
moi je peux pas vous répondre comme ça. Hein. Ça dépend c'est très personnel, c'est très individuel, ça dépend de chaque histoire.
Parce que si l'homme est violent. Il y a un comportement.
C'est sûr que maintenant, avec les nouvelles lois, si l'homme est violent, on ne va pas confier. Il y a des nouvelles lois maintenant qui sont sorties. On ne va pas confier, évidemment, les enfants à un homme violent. Hein. Ils resteront avec leur maman, ça c'est clair. Voilà.
Ah. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler ces lois ?
Non.
Les nouvelles
non,
lois.
Moi, je suis pas du tout dans le juridique, alors absolument pas. Non, je suis pas du en juridique.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer des femmes qui ont subi la première fois des violences et puis ensuite qui repartent, qui se remettent en couple avec des hommes et resubissent la même chose ?
Mais oui, ça arrive, malheureusement.
Est-ce que ça vous arrive souvent ou pas?
Souvent, non, pas souvent, mais ça peut arriver, hein. Ça peut arriver, oui. Oui, ça peut arriver.
Enfin, parce que moi, je pense qu'un homme, il devrait comprendre le fait qu'une femme, elle ait vécu cette situation et puis de ne pas le faire subir la même chose.
Oui, mais là, je n'ai pas envie de trop m'étendre sur le sujet. Oui, je n'ai pas envie de m'étendre sur le sujet. Oui, oui. Non, mais oui, ça peut arriver. Ça peut arriver.
D'accord.
Et quand vous vous occupez de ces femmes, du coup, vous devez rester neutre sur le sujet ou vous avez le droit de...
Ah ben c'est clair, oui, non, je suis neutre. Moi, en principe, c'est moi qui fais les premiers entretiens. Donc, j'écoute. Et en plus, c'est, comme je l'ai déjà dit, c'est la première fois parfois qu'elle parle. Donc, j'écoute. J'écoute très attentivement. J'essaye de je les culpabilise jamais. Je crois tout ce qu'elle me dit. Je les mets dans un climat de confiance. Et après, j'essaye de voir vraiment ce dont elles ont besoin, si c'est un accompagnement juridique, social ou psy, pour mieux les diriger.
Et lors de cet entretien, est-ce que vous avez une petite pression de peur de la faire culpabiliser sans le vouloir ou quelque chose comme ça?
Oui, enfin, je fais très attention quand même à mes questions. Enfin, j'essaye de la mettre la plus à l'aise possible. Non, je n'ai pas une... Je culpabilise pas, non.
Et est-ce que lors des entretiens, vous êtes accompagnée par les services civiques ou pas?
Ça dépend.
Pour leur montrer.
Ça dépend. Si je demande toujours aux femmes que je reçois, si elles ou une stagiaire, enfin, je leur demande si elles veulent... Si elles veulent qu'une personne m'accompagne pour cet entretien. Si elles le veulent, ok. Si elles ne veulent pas, je n'insiste pas. Je demande toujours à la victime. Je demande toujours à la femme si elle veut que quelqu'un assiste à l'entretien.
Et généralement, c'est oui ou non?
Ça dépend de chaque histoire. Il y a des femmes qui veulent absolument personne. En principe, quand c'est un premier entretien, c'est vrai qu'elles préfèrent personne. Après, quand on a l'habitude, quand on se connaît, quand elles ont l'habitude de revenir, des fois, c'est plus facile. Mais en principe, un premier entretien, elles ne souhaitent avoir personne d'autre. Si c'est une première fois qu'elles parlent, elles préfèrent avoir personne d'autre.
Et est-ce que ces femmes trouvent que par rapport à tous les cas qu'il y a en France, il y a assez de soutien psychologique et juridique et social qui s'offre à eux, qui s'offre à elles?
Oui, je pense. Hein. Bon, il y a des... Oui, je pense. Nous, on est vraiment, je répète, une association sur le terrain. On était... Alors, il y a peut-être des associations qui sont moins disponibles. Nous, on avait vraiment une plage horaire. On est ouvert de 10h à 17h. Elles pouvaient venir avec ou sans rendez-vous, prendre un café. On leur offrait aussi des repas, des kits d'hygiène. Elles pouvaient parler ensemble. Voilà, après, ça dépend de chaque association. Mais je pense qu'il y a moyen de trouver des aides psychologiques, juridiques et sociales dans toutes les associations. Ça dépend de la disponibilité de chaque association. C'est vrai que nous, on avait une grande disponibilité. Mais je pense que oui, elles peuvent trouver...
La disponibilité, vous en avez eu toujours? Pour chaque cas?
Toujours, oui. Ah oui, toujours. On a toujours été, malgré même nos problèmes financiers, et avec manque de salariés aussi, on s'est toujours arrangés à ouvrir tous les jours. Et les femmes le savaient, hein. C'était un lieu vraiment très convivial. Elles pouvaient parler entre elles. Il y avait toujours quelqu'un pour les recevoir.
Et comment vous faites pour solliciter de l'aide auprès d'autres associations, de l'État notamment?
D'autres associations?
Oui, les associations, les entreprises, du soutien. Comment vous faites pour en solliciter?
Bah, Moi, j'ai des adresses, je travaille avec des avocats, avec des, j'ai des contacts, pas je travaille, mais j'ai des contacts avec des juristes, avec des psychologues, avec des assistantes sociales, et voilà, j'ai quand même un réseau. Donc où je peux orienter les femmes. Je sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais.
Donc ça se passe de bouche à oreille.
Non.
Globalement.
Non, pas de bouche à oreille. J'ai un carnet d'adresses. J'ai des gens sur qui je peux compter.
Et l'État, est-ce qu'elle vous verse des subventions ou pas? Si on peut rentrer dans ce sujet.
Je vais vous répondre non. Voilà, on a fait différentes démarches auprès de Marlène Schiappa, la présidente. Moi-même, en tant que bénévole et militante, nous n'avons jamais eu de réponse.
Donc vous êtes toujours en attente. Ça n'a jamais été négatif ni positif, c'est toujours sans réponse.
Voilà. Et on a eu quand même des subventions au niveau de l'éducation nationale parce que nous faisons de la prévention également dans une éducation populaire, des interventions en milieu scolaire.
Dans le lycée, collège ?
Oui. Pour prévenir des violences et sensibiliser... au respect, pour sensibiliser les jeunes.
Et est-ce que vous pensez que les jeunes sont touchés par ces sujets ou ça leur passe
au
travers ?
Il faut mieux faire un travail en amont pour essayer de pour expliquer aux jeunes le rôle de la mixité et si c'est un travail en amont quand même.
Et celle qui, quand vous allez intervenir sur dans des écoles,
moi, je le fais pas. Hein. Moi, je suis uniquement sur la plateforme, sur l'accompagnement des victimes. Mais il y avait souvent des services, il y a souvent les services civiques qui intervenaient.
C'est là où je voulais en venir. Donc ils vont accompagner d'un éducateur, d'un bénévole ou ils peuvent y aller tout seuls?
Ils sont formés. On les forme. La présidente les forme.
Donc ça, c'est la présidente qui s'en occupe.
Enfin, la présidente aussi peut les accompagner. Moi aussi, je les ai accompagnés en tant qu'éducatrice. Mais ils peuvent aussi le faire. Ils sont formés, ils reçoivent une formation. On les envoie pas comme ça.
Et ensuite, ils font quoi? Ils décident de faire quoi? Parce qu'en venant faire un stage ou un service civique dans votre association, forcément, ils ont un but derrière, un projet. Et généralement, quels sont ces projets?
Ça, c'est des projets assez. Je peux pas vous dire, oui, au sein peut-être pour leurs études, ou. Je peux pas vous dire exactement, non, là, je peux pas vous.
Et est-ce que certains restent bénévoles dans l'association?
Oui.
Que ça soit stagiaire ou service civique?
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Je suis en train de... Est-ce que je peux revenir sur la question des événements?
Oui, bien sûr.
Vous m'avez posé des événements et c'est vrai que j'ai un petit peu... Je ne me suis peut-être pas bien expliquée. C'est vrai que des fois, on se mobilise quand même pour participer à divers événements, tels que la Journée internationale des droits de la femme et la campagne du ruban blanc.
Alors, est-ce que vous pouvez nous citer les dates?
Les dates?
Oui, de la Journée internationale de la femme.
C'est pas le 8 mars?
Ah, moi, je sais pas du tout. Parce que c'est vrai qu'on on connaît la journée, mais la date, pas spécialement, ou soit... je sais pas si c'est marqué, d'ailleurs, sur le calendrier.
Je crois que c'est le 8 mars, non?
Bon, au moins... Et ce sont les deux événements que vous faites?
Oui, voilà. Oui, j'ai un petit peu... Oui, oui.
D'accord, bon. Ah oui, c'est vrai que c'est des
jeunes là, qui ont qui portent des projets, si vous voulez, qui ont leurs propres projets.
Et pour revenir à la journée de droit de la femme à la traite, oui, vous avez raison, c'est le 8 mars.
Le 8 mars, oui.
C'est exactement ça. Bon, nous, je pense qu'on a déjà fait le tour.
Oui.
Il ne me reste plus qu'à vous remercier et vous souhaiter bon courage pour tout ce que vous faites.
Merci. Et puis, vous diffusez
Localement.
C'est localement.
Voilà,
d'accord.
C'est ça.
D'accord, ok.
Voilà, donc soit ça va passer en direct ce soir, soit dans les informations locales la semaine prochaine.
C'est local.
Voilà.
Ok, très bien, je vous remercie.
Bon, bah, je vous remercie de nous avoir accordé du temps, surtout de nous avoir expliqué le but et vos projets de l'association.
C'est un petit peu bugué, mais...
Non, c'est pas grave.
Mais... Je ne suis pas très très à l'aise, mais voilà. J'espère que ça a été quand même.
Oh bah si, ça s'est très bien passé, vous inquiétez pas.
Bon,
en tout cas,
merci,
nous on a toutes les informations. Je vous remercie énormément et je vous souhaite bon courage pour la suite.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.